Alors, bonjour Étienne.
Bonjour.
Dans un précédent épisode donc, de Nantes, cité des Ducs de Bretagne, on a évoqué la Bretagne telle qu'elle était avant que le duché s'installe à Nantes. On l'avait dit que les rois de Bretagne, on peut les citer, s'intéressaient à Nantes, oui. Mais ils n'étaient pas les seuls.
Bien sûr, ils n'étaient pas les seuls. Hein. Donc les rois, on peut les citer. Il y a trois grands rois, hein, Iris Poé, Salomon et Alain le Grand. Et ceux qui s'intéressaient beaucoup à la Bretagne à l'époque, c'était les Vikings, les fameux Vikings qui ont, en arrivant sur leur drakkar, affolé les populations et ont laissé donc des souvenirs terribles. Bon, bien sûr, aujourd'hui, des historiens nuancent un peu tout cela, mais c'est vrai que la Bretagne a été profondément touchée, a été profondément marquée par cette empreinte viking, et Nantes aussi. Et c'est aussi ce qui va faire certainement pas le bonheur, disons, mais la chance un peu d'Alain Barbetorte au Xe siècle, c'est qu'il est le petit-fils du dernier roi, le roi Alain le Grand, qui est mort en 907, qui justement a régné en grande partie grâce à ses victoires contre les Vikings. Il a su les tenir un peu au loin. Nantes, à cette époque-là, joue un petit peu au yo-yo entre la Bretagne et pas la Bretagne. C'est-à-dire qu'à certains moments, on trouve Nantes sous la responsabilité des rois de Bretagne. À d'autres moments, ils n'arrivent pas à se faire leur pouvoir. Et avec Alain Barbetorte, les choses vont vraiment changer, puisqu'il est en exil. Il est en exil auprès du roi d'Angleterre, le roi Altestan. Et il y a également Louis d'Outremer, un roi carolingien qui est également en exil. Et donc tous ces gens, ces nobles vont rentrer vers 935-937, vont rentrer sur le continent, vont reprendre le pouvoir. Barbetorte va reprendre le pouvoir de son grand-père. Simplement, il aura fait allégeance à Louis d'Outremer. Il sera son vassal.
Donc, si je comprends bien, Alain Barbetorte, il fait l'unanimité parmi les puissants de l'époque, je veux dire.
Tout à fait. Il est reconnu sur la scène, entre guillemets, internationale. C'est un peu anachronique de dire ça, mais on peut dire ça comme ça. Et il est aussi accepté par les Bretons, tout simplement parce que lui, il a chassé les Vikings qui occupaient la place. Il les a battus. Il a fait des combats extrêmement importants. Dans le nord, d'abord sur la côte nord de la Bretagne, lorsqu'il est arrivé d'Angleterre. Et puis ensuite, il est descendu jusqu'à Nantes, où les Danois régnaient en maître depuis quelques dizaines d'années. Et là, ses victoires contre les Danois ont assis son pouvoir.
Voilà. Juste un mot très rapide, les Vikings, c'était vraiment le fléau de cette époque-là.
Oui, c'était le fléau pour ceux qui les subissaient. Bon, je pense qu'on a certainement beaucoup exagéré leur sauvagerie, leur cruauté. C'était tout simplement une civilisation qui était différente de la civilisation chrétienne qui était ici. Qui plus est, ils avaient compris que l'or, l'argent, les choses qui avaient de la valeur étaient dans les cathédrales, étaient dans les monastères. Donc ils se sont beaucoup attaqués aux moines, aux prêtres, comme ce sont les seuls qui savaient écrire. Et ils ont laissé des traces, évidemment, de leur malheur.
Les Vikings, juste, tu as parlé de Danois, c'était pas les seuls.
Non, il y avait des Danois et des Norvégiens, surtout. Hein. Les Suédois, on va plutôt les appeler les Varegs, et eux, ils sont plutôt allés vers la Russie. Ceux que l'on appelle, nous, nos Vikings, nos Normands, en fait, hein, ce sont surtout des Danois et des Norvégiens.
Oui. Donc, Barbetorte, dans un premier temps, on va les faire taire.
Voilà, il va les faire taire, il va les battre. Et surtout, il va être un petit peu moins naïf que les rois au siècle précédent qui ont essayé de composer avec eux. Et en général, on ne composait pas. D'ailleurs, en 843, donc un siècle avant Barbetorte, ils avaient donné un exemple quand même de ce qu'ils pouvaient faire en détruisant un peu la ville de Nantes, la cathédrale. Ils avaient tué tout le monde alors que les gens se réfugiaient dans la cathédrale. Et même l'évêque qui s'appelait Goar à l'époque appelait les gens à « haut les cœurs », disait-il en latin, sur « sum corda ». Et au moment où il appelait les gens donc à se retenir, en tout cas à lutter contre les Vikings qui venaient de rentrer dans la cathédrale, il a eu la tête coupée. Donc il y a toujours une rue Saint-Goar à Nantes, et c'est bien normal, il fait partie de cette histoire.
Donc les Vikings sévissaient sur les côtes, aussi dans les estuaires, rentraient aussi dans les rivières ou les fleuves. Hein.
Voilà, c'est ça, hein. les Vikings parvenaient jusqu'à Nantes. Au départ, ils étaient installés au 9e siècle, un peu sur l'île de Noirmoutier, et puis ensuite, progressivement, ils sont venus jusqu'à Nantes, et ils se sont même installés sur l'île de Biesse, hein, qui était à la sortie de la Nantes.
Voilà. Donc de par ces victoires, Barbetorte s'installe à Nantes.
Voilà, il s'installe à Nantes, il devient à la fois duc, il est reconnu par les autres, y compris d'ailleurs le comte de Rennes, qui dans un premier temps, en tout cas Jules Béranger, accepte l'autorité de Barbetorte, et c'est très important puisque l'union fait la force.
Alors, présente-nous Alain Barbetorte. Qui était-il, cette personnalité, ce qu'il va faire
Oui, alors petit-fils de roi, c'était pas rien. Hein, donc il se retrouve à la tête de la ville et à partir de la ville à la tête du duché. C'est un relativement, on peut considérer qu'il est relativement proche du roi également, puisque le Carolingien, lui d'outre-mer, va lui survivre. Donc il a, de bonnes relations. Il a également assis ses relations sur la Bretagne en se faisant accepter par le Rennais, qui était également un comte puissant. Donc ça fait un seigneur, un guerrier. À côté de cela, il y a également l'administrateur. C'est quelqu'un qui va... Il ne va pas se contenter simplement de porter le fer. Il va également essayer de gérer la ville qu'il a conquise, de la reconstruire. C'est une nécessité parce qu'apparemment, d'après les chroniqueurs de l'époque, il a retrouvé une ville dans un triste état. Il va d'ailleurs donner du travail aux serfs, il va en affranchir une partie. Ceux qui viendront travailler à Nantes, dit-on en tout cas à l'époque, étaient affranchis, ce qui était important évidemment pour des serfs. Donc tout ça c'est bien, il va contrôler le commerce, reconstruire la ville. Et puis il va avoir une vie également, une vie personnelle.
Une personnalité religieuse aussi, je crois.
Voilà, il a une vie personnelle qui est marquée par deux choses, à la fois les femmes... C'était certainement quelqu'un, évidemment, c'était le duc, donc, et c'était un homme solide, hein, il l'avait montré lors des batailles. Peut-être avait-il du charme, et puis il était effectivement très, très proche de l'évêque, très marqué également par sa proximité avec l'abbé de Landévennec, qui avait joué un grand rôle dans son retour en Bretagne.
Jean de Landévennec va être proche de lui, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, Jean de Landévennec.
Son conseiller.
Voilà, il va être son conseiller, en tout cas pour son retour et ses premières années de règne. Et ça se sent d'ailleurs, hein, puisqu'il va faire des donations à l'abbé de Landévennec ensuite lorsqu'il exercera le pouvoir. Et puis également, il va se marier à deux reprises. Une première fois, il va se marier avec la fille de Foulc, qui est le comte d'Anjou. La famille d'Anjou est une famille puissante, importante, qui joue un grand rôle. Et donc c'est un mariage très intéressant sur le plan diplomatique. Ça lui donne en tout cas la garantie d'avoir la paix sur ses frontières est et sud. Et cette princesse aussi meurt sans lui avoir donné d'enfant. Il va se remarier ensuite avec une princesse de très haut rang cette fois-ci, la sœur de Thibault le Tricheur. On est dans la famille de Blois. Là, c'est carrément une famille de, on va dire, de cousins pratiquement de ceux qui exercent le pouvoir. Et là, il va avoir un petit garçon. Et autrement, on sait de lui également qu'il a vécu assez longuement avec une femme qui s'appelait Judith, qui va lui laisser également deux garçons, Hoël et Guérec, qui vont jouer un rôle important, mais ça c'est ensuite.
Alors voilà, c'est ça, on vous a mis l'eau à la bouche, mais ce sera le contenu de la troisième émission. Hein. On reviendra justement sur la succession d'Alain Barbetorte qui décède en quelle année précisément, 952.
Oui, c'est ça, en 952.
Voilà, ouais. On a un petit peu de temps pour donner peut-être un état de la Bretagne à cette époque-là, à un moment de son décès.
Oui, alors d'abord Nantes est la capitale de la Bretagne à ce moment-là. D'abord parce que c'est la ville du duc, hein, et puis parce qu'il n'y a pas de grande ville en Bretagne. Je pense que Nantes et Rennes vont longtemps, d'ailleurs toujours, hein, jouer un rôle capital dans cette histoire. L'état de la Bretagne, lorsque Barbetorte meurt, c'est une région qui est pacifiée. Des relations entre les villes, des relations commerciales, des nobles, des barons notamment, comme le baron d'Anceny, hein, la baronnie d'Anceny existait déjà, qui acceptent leur vassalité, ce qui est important parce que très souvent on va retrouver une noblesse très, très désunie, ce qui fera toujours la force des adversaires de la Bretagne. Une économie qui est partiellement tournée vers la mer, parce que déjà il y a des transports, hein, déjà on va facilement, même de Nantes jusqu'en Grande-Bretagne. Donc c'est vrai qu'on est cette fois-ci dans un duché qui prend une certaine assise.
Voilà.